Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant de la poussière à la gloire. C'est une série très importante, très, de la poussière à la gloire. Nous sommes à l'étude numéro 5, et le titre aujourd'hui, très important, c'est « Sa gloire sur la terre ». Nous devons être les dépositaires de la gloire de Dieu. Mon peuple doit désirer plus que jamais ma gloire pour l'Église. Mon peuple doit rechercher cela désespérément avant que la situation mondiale ne les rende désespérés, voire impossibles. J'ai commencé par une prophétie. Je réfléchissais à ces paroles dans la présence du Seigneur. Je connaissais la valeur de notre acharnement. On a parfois l'impression que Dieu n'agit dans nos vies que lorsque nous le cherchons désespérément. Je cherchais désespérément à le connaître réellement avant que naisse cette précieuse relation actuelle. Je voulais désespérément être libéré dans certains domaines de ma vie avant de l'obtenir. Oui, notre acharnement ouvre les portes du miracle, ces portes qui restent fermées devant la tiédeur. Et là, le Seigneur disait doucement que nous qui sommes son peuple, devions désirer désespérément sa gloire pour l'Église. Quelle est cette gloire à laquelle nous devons aspirer ? Le Seigneur faisait allusion à la promesse donnée dans Agée, je répète Agée, chapitre 2, versets 7 et 9. Il est dit « Et je remplirai cette maison de gloire, dit l'Éternel des armées. La dernière gloire de cette maison sera plus grande que la première, dit l'Éternel des armées. » Et dans ce lieu, je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Ces paroles prophétiques, cette parole, elle fut donnée pendant la construction du deuxième temple, dont la gloire ne dépassa jamais celle du temple de Salomon, la première maison dont il est question. Le peuple était revenu à Jérusalem au bout de 70 ans de captivité. Le pays, le temple, la ville avaient largement été dévastés. Pourtant, le Seigneur promet, il promet une grande gloire pour un temple à venir. Il ne pouvait s'agir du temple de la reconstruction, alors de quoi s'agit-il? Le Seigneur établissait un parallèle avec un autre temple dans les derniers temps, un temple qui lui aussi serait dans un état de désolation à cause d'une autre captivité babylonienne spirituelle, celle-là. Le Seigneur se servait des yeux d'Agée pour voir un temple de pierre vivante dont le fondement avait été perdu pendant des siècles. Ce fondement perdu, c'était la vérité, celle du salut par grâce, je répète, celle du salut uniquement par grâce et par la foi en Jésus-Christ, et non pas par nos œuvres. Il voyait les vérités fondamentales restaurées petit à petit, et ce temple devenait une maison de gloire et de paix. En effet, comme nous l'avons déjà vu, il ne peut y avoir de gloire là où il n'y a pas la paix. Le Seigneur considérait donc l'ère à venir de l'Église. Notre première maison, dans l'ère de l'Église, elle fut l'Église primitive. Et Dieu promet que l'Église de la fin des temps connaîtra une plus grande gloire que l'Église primitive. N'est-ce pas merveilleux? Cette promesse nous a été faite à nous, l'Église, mais cela n'annule pas la promesse pour Israël restauré et le temple du millénium, tel que nous le voyons dans Ézéchiel. Nous ne devons pas laisser l'Église remplacer Israël dans les promesses qui lui ont été données, à lui premièrement, mais au sens spirituel, nous pouvons les partager, car pour nous, toutes les promesses sont oui et amen, selon 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20. L'accomplissement de cette promesse de gloire doit être attendu, il doit être recherché. Dieu agit sur terre au moyen de la prière. Donc c'est à nous de lui donner ces moyens-là. Chers amis, nous devons demander. Zacharie nous donne le conseil suivant dans Zacharie chapitre 10 verset 1. Demandez à l'Éternel de la pluie, au temps de la pluie de la dernière saison. L'Éternel fera des éclairs et il leur donnera des ondées de pluie à chacun de l'herbe dans son champ. Alors il y a plusieurs points qui ont leur importance dans ce verset. Premièrement, nous devons demander afin que le Seigneur puisse donner. Cette pluie, quoique prophétisée depuis longtemps, nécessite notre prière assidue et ardente afin de se manifester sur la terre. La demande doit correspondre au cadre, au temps et aux autres signes prophétiques. Je crois que nous sommes précisément dans ces temps-là. Deuxièmement, le Seigneur fera des éclairs, des nuages lumineux, selon la version anglaise, ce qui parle de grande gloire accompagnant l'action de l'Esprit Saint de Dieu. Et troisièmement, cette pluie de l'arrière-saison sera mondiale, d'une portée étendue et multinationale, à chacun de l'herbe dans son champ, indique chaque âme sur terre. Cela représente chaque âme qui se trouve sur terre. Ésaïe dit, toute chair est de l'herbe. Et le champ indique que le plus souvent la terre entière. Nous savons que le monde entier ne sera pas sauvé, évidemment, mais il sera entièrement affecté. Nous devons le demander. Demander avec acharnement pour que Dieu agisse avec puissance et majesté. Nous devons être, on peut dire, écœurés. Nous devons être dégoûtés des blasphèmes qui nous environnent et réclamer à grands cris que Dieu soit exalté. La gloire à venir n'est pas une démonstration extravagante du surnaturel faite pour épater les habitants de la terre. Son but va bien au-delà d'un effet de choc. Cette gloire est quelque chose qu'il est indispensable d'avoir pour survivre dans cette période de l'histoire. La gloire, c'est la présence personnelle de Dieu. Zacharie, chapitre 2, verset 5. Là, il est dit, « Je serai une muraille de feu autour de vous et une gloire au milieu de vous. » Donc, elle est la visitation de la personne même de Dieu au milieu de nous et manifestée comme elle ne l'a jamais été, ni même imaginé auparavant. Il est un feu autour de nous, un feu repoussant nos ennemis spirituels, qui sont des démons, et qui peut, par ce feu divin, nous protéger contre les esprits mauvais. Sa présence est toute glorieuse au plus profond de notre sein. Son feu et sa gloire. Voilà donc les deux aspects de sa présence immédiate au milieu de nous. En ces jours de danger et, on peut dire, de ténèbres, les deux nous seront nécessaires. La pluie de l'arrière-saison doit surpasser la première pluie de la Pentecôte au temps de l'apôtre Pierre. Nous avons toujours aujourd'hui des problèmes et des circonstances que l'apôtre Pierre n'aurait jamais pu imaginer. Il existe actuellement un vent mondial de folie, folie aggravée et encouragée par une société rendue folle par les drogues et l'électronique. Les gens sont désensibilisés affectivement, comme l'avait prédit l'apôtre Paul dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 3. Les gens sont donc sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, incontinents, cruels, n'aimant pas le bien. Les crimes de violence font de plus en plus couler le sang. Nous en sommes donc là où était le monde au temps de Noé. La terre était corrompue devant Dieu et la terre était pleine de violence. Genèse, chapitre 6, verset 11. Jésus a dit que les choses se passeraient à nouveau comme au temps de Noé. Il nous faut donc la gloire de Dieu et son feu protecteur pour nous garder au milieu de tant de violence. Des épidémies de sida ont décimé des villages entiers en Afrique. Il y a le fléau de nouvelles drogues qui a très vite semé la confusion dans beaucoup de villes, et de nouveaux virus, etc., plus dangereux que jamais. Ce qui est particulièrement tragique, c'est le fait que ces fléaux viennent souvent de nous-mêmes. Le plus souvent, nous les infligeons à nous-mêmes. Le monde, comme Israël autrefois, est rempli de sa propre déchéance. La moisson, cette moisson, doit être récoltée en dépit des dangers dans les champs de mission, chez nous ou à l'étranger. Il nous faut absolument être entourés du feu de Dieu, mais ce feu ne peut être que le fruit ou le résultat de sa gloire au milieu de nous. Nous devons donc rechercher désespérément la gloire de Dieu avant que la situation ne nous rende désespérés. Nous avons besoin de sa gloire pour accomplir son œuvre. Ensuite, nous avons besoin de la gloire de Dieu pour mener à terme le grand mandat qui est confié et qui a été confié par Jésus-Christ. Il reste à faire un travail bien plus grand encore, et pour cela il nous faut une bien plus grande onction du Saint-Esprit. Jésus a donné un signe de la véritable fin des temps, et cela dans Matthieu chapitre 24, verset 14. Il est dit: cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier en témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Jésus ne reviendra que lorsque toutes les nations, au sens biblique et non politique, auront reçu le témoignage de l'évangile. Selon la Sainte Bible, une nation est faite de tous les groupes de la terre, comprenant les familles, les langues, les tribus et le peuple à l'intérieur de chaque frontière nationale et politique. Les statistiques qui nous sont données par différentes organisations missionnaires sont d'accord pour estimer qu'il en existe environ 20 000 sur la terre. Tous des groupes de différentes cultures ayant besoin d'être touchés indépendamment les uns des autres. Chaque peuple enfermé et isolé des autres par sa culture propre doit avoir ses messagers appelé et préparé pour lui par Dieu. Les gens ne rejettent pas forcément le message de l'Évangile, mais rejettent plutôt ces messagers non qualifiés, qui sont eux-mêmes pas convaincus, qui, dès lors, ne réussissent pas à les toucher. Quoi qu'il existe environ 20 000 peuples de différentes cultures, seulement 3 500 à 4 000 ont entendu l'Évangile dans ces 21 derniers siècles. Il nous faut donc davantage de puissance. Nous devons réclamer à grands cris la pluie de l'arrière-saison. De la même manière que les premiers disciples s'assemblaient et priaient jusqu'à ce que la première pluie descende à la Pentecôte, ce même esprit nous appelle à nous assembler dans ce seul but d'obtenir une toute nouvelle effusion de la puissance et de la gloire de Dieu. Le travail se fera. Le mandat sera accompli. Dans Apocalypse chapitre 7, verset 9, Saint Jean voyait une foule innombrable de toutes nations et tribus et peuples et langues. Alléluia. Que notre génération puisse être celle qui ouvre le chemin. Nous devons réclamer à grands cris que la gloire du réveil vient sur nous, sur toute chair. Nous avons désespérément besoin de Dieu, mais il y en a beaucoup trop parmi son peuple que se laissent percer, des gens qui se laissent percer par l'esprit du monde et qui ne reconnaissent absolument pas le danger grandissant qui grandit en silence, tandis que ils ont l'air de dormir. Voyez-vous, il faut être vigilant et éveillé, chers amis. Que Dieu nous rende conscients de notre besoin, et cela pour sa gloire. Mais lorsque cela viendra, saurons-nous à quoi nous attendre? Ce que nous demandons, c'est le feu qui détruit les scories. Cela n'est pas honnête de demander le feu du réveil pour purifier les pécheurs, alors que nous-mêmes, nous, enfants de Dieu, ne marchons pas dans une parfaite pureté. La gloire doit d'abord se lever sur nous qui sommes son peuple. Et c'est pour cette raison que la venue de la gloire de Dieu est précédée par un temps de purification. Je le vois dans plusieurs pays, et puissions-nous le voir chez nous. Cette œuvre de purification du Saint-Esprit est le jugement qui commencera dans la maison de Dieu. Cela est prophétisé à deux reprises particulièrement importantes. Il est dit en Malachie, chapitre 3, versets 1 à 3, « Voici, j'envoie mon messager et il préparera le chemin devant moi. Et le Seigneur que vous cherchez viendra soudain à son temple et l'ange de l'Alliance en qui vous prenez plaisir. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Mais qui supportera le jour de sa venue et qui subsistera lorsqu'il se manifestera? Car il est comme un feu d'affineur et comme la potasse des foulons, et il s'assiera comme celui qui affine et purifie l'argent, et il purifiera les fils de Lévi et les affinera comme l'or et comme l'argent, et ils apporteront à l'Éternel une offrande en justice. » Il est question là de l'œuvre purificatrice du Saint-Esprit parmi les Lévites spirituels. Nous voyons un aspect de cette purification dans les évangiles lorsque Jésus rentra dans le temple, un fouet à la main, pour en chasser tous ceux qui profanaient la maison de son Père. C'est là un exemple de sa colère face aux péchés non confessés dans notre propre vie. Il veut le chasser hors de nous, nous qui sommes le temple de Dieu. Nous devons donc être préparés. Nous devons être prêts pour la gloire promise. L'Écriture sainte pose la question suivante. Qui pourra subsister? La gloire de Dieu est sa parfaite sainteté. La sainteté est un feu. Les sacrifices offerts à Dieu furent brûlés par le feu. Si nous devons être des sacrifices vivants pour Dieu, ce qui est notre culte raisonnable, selon Romains chapitre 12, verset 1, il nous faut être ininflammables. La gloire de Dieu est comme un feu, mais la seule chose qu'il brûle, c'est la souillure. c'est le péché. Ce qui est pur est ignifuge. Moïse décrit la gloire de Dieu sur le mont de Sinaï comme étant un feu dévorant, mais ce feu se répand pour dévorer ce qui est impur, tel que le vice non abandonné, tel que le péché caché, car la sainteté est l'un des attributs immuables de Dieu. Mais les seules personnes et les seules églises pouvant faire l'expérience de la gloire de Dieu seront celles qui supporteront cette ardente gloire. Ésaïe chapitre 4, versets 3 à 6, nous dit ceci. Le résidu en Sion et le reste dans Jérusalem sera appelé saint. Quiconque sera écrit parmi les vivants dans Jérusalem, quand l'Éternel aura nettoyé la saleté des filles de Sion et aura lavé le sang de Jérusalem du milieu d'elle, par l'esprit de jugement et par l'esprit de consomption. Et l'Éternel créera sur chaque demeure de la montagne de Sion et sur ses assemblées une nuée et une fumée de jour et la splendeur d'une flamme de feu la nuit, car sur toute la gloire il y aura une couverture et il y aura un tabernacle pour ombrage de jour contre la chaleur et pour abri et pour refuge contre l'orage et contre la pluie. Depuis près de 30 ans, beaucoup plus, j'ai soupiré après la gloire de Dieu. Mais combien souvent j'ai lu ces versets avant de vraiment de bien les comprendre. Ce passage nous dit que quiconque persévérera, sera appelé saint. Beaucoup failliront lorsque le feu purificateur commencera de brûler les scories au milieu du peuple de Dieu. Nous avons vu dans Malachie, chapitre 3, la comparaison de la purification des fils de Lévi avec celle de l'or. Il y a une bonne raison pour cela, car l'or se trouve dans des minerais ayant un point de fusion moins élevé que celui de l'or qui est de 1063 degrés. Ceci le place bien plus haut que les substances environnantes, et le moyen de purifier l'or est donc la fournaise. Au contact du feu, tout se met à fondre et se dégage avant que l'or ne soit atteint. Cela donne une image des pressions, des épreuves envoyées comme du feu pour nous rapprocher de Dieu. Nos matériaux fondent très rapidement, mais l'or de Dieu en nous demeure inchangé. Ce feu purificateur est mentionné une fois de plus dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 7. Il est dit que l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que celle de l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Le feu œuvre afin de nous séparer des alliages. L'or symbolise la sainteté de la nature divine de Dieu venant remplir notre être tout entier. Dans notre vie nouvelle, ce vase que nous sommes contient encore certains éléments de notre ancien mode de vie. Or Dieu a besoin de vases purs et sanctifiés. L'or nous parle de la mesure de la présence de Christ en nous, du degré de notre sanctification. Ces choses déterminent le niveau de gloire que peut contenir notre vase. Dans le temple de l'Ancien Testament, tout ce qui entourait l'arche était recouvert d'or, on peut dire l'or le plus pur. L'arche est le propitiatoire qui était au-dessus. Cela représentait Dieu et son trône. Nous sommes donc appelés à recevoir en héritage ce trône de gloire, selon 1 Samuel, chapitre 2, verset 8. De même que l'or était nécessaire à l'arche, le peuple qui se prépare à la présence de Dieu doit être fait d'or. Seul un tel peuple subsistera dans le feu de sa glorieuse sainteté et pourra supporter sa présence continue. Pour cette raison, nous devons être transformés de gloire en gloire. C'est pour lui, pour Jésus-Christ, car il est notre époux. Il nous veut dans son sein, dans son étreinte, parce que notre époux divin est un feu dévorant. Il nous exhorte maintenant à rechercher une pureté qui pourra non seulement supporter son étreinte, mais qui s'en réjouira. Ésaïe dit que quiconque restera ou quiconque continuera avec le Seigneur sera appelé saint. Dieu s'est engagé à mener à bien l'œuvre commencée en nous, mais c'est à nous de continuer et de ne pas nous relâcher. L'Église était comme une chandelle dont la mèche était périlleusement basse, sauf dans quelques cœurs isolés pendant les 1000 ans de l'âge des ténèbres. Donc, elle est en quelque sorte devenue comme une lampe pendant les réveils de la Réforme. Et elle a pris l'éclat d'un projecteur de stade pendant les réveils pentecôtistes, mais l'Église doit maintenant s'apprêter à diffuser, une lumière d'une telle intensité qu'elle pourrait être comparée à un rayon laser. Les murs de notre âme sont en train d'être restaurés afin de pouvoir soutenir une telle force et de gloire et de sainteté qui est, bien entendu, l'unique présence de Dieu. Dieu nous demande d'aspirer avec acharnement à cette gloire. Il est intéressant de remarquer que d'après la prophétie d'Ésaïe, la gloire de Dieu serait un refuge et une protection pour nous. Aussi difficile que puisse paraître notre préparation à sa gloire, cette difficulté n'est rien comparée à celle d'essayer de survivre sur terre dans les temps à venir sans cette gloire. Seuls ceux qui se soumettent à la purification pourront subsister face au feu de la gloire de Dieu. Les bénéficiaires de cette gloire auront une protection dans la tempête et sous la pluie. Nous avons tout lieu de penser que la manifestation de la gloire sera à l'heure de la persécution au nom de la justice. Jésus a parlé du temps de la trahison où même des frères et sœurs se livreront l'un l'autre dans son serment sur la montagne des Oliviers, dans Saint Matthieu, chapitre 24, verset 10, il est dit « Et alors, plusieurs seront scandalisés et se livreront l'un l'autre et se haïront l'un l'autre. » Pendant ce temps de purification, qui est le jugement de la maison de Dieu, le but sera de corriger le corps qui est appelé par son saint nom. Beaucoup se retireront, refusant la correction, parce que pendant de longs siècles, certaines pratiques n'ont pas été corrigées. Beaucoup mettront sur ce mouvement l'étiquette du fanatisme. Et Dieu nous met en garde sur ces événements dans le psaume chapitre 50, verset 21. Là, il est dit, « Tu as fait ces choses-là, et j'ai gardé le silence. Tu as estimé que j'étais véritablement comme toi, mais je t'en reprendrai et je te les mettrai devant les yeux. » Le jugement venant sur l'Église n'a pas pour but de le blesser, mais de l'aider. En le corrigeant, Dieu la placera à l'intérieur de son ordre divin. Mais plusieurs seront vraiment scandalisés, a prédit Jésus sur le mont des Oliviers. Cela veut dire que beaucoup s'éloigneront. La persécution, la pire, viendra des frères et sœurs. Ceux qui s'éloigneront persécuteront ceux qui persévéreront. Incroyable mais vrai. Une pasteur amie, Sabina Reichenbach, qui a baptisé par immersion, une sœur adulte, selon exactement les critères des Saintes Écritures, a été dénoncée et elle a presque perdu sa place. Voyez-vous, c'est sérieux. Ce temps de tribulation sera celui de Gethsémané pour ceux qui sont déterminés à suivre Jésus. Ce sera un temps de rupture quand la vie de Christ, contenue dans nos vases d'argile, pourra enfin se répandre. L'apôtre Paul enseigne ce principe dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 7 à 12, où il est dit « Mais nous avons ce trésor dans des vases de terre afin que l'excellence de la puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Nous portons toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous, met la vie en vous. Elle met la vie en vous. Chers amis, il commence donc par reconnaître que nous portons un trésor dans nos vases. Il est dit la vie même de Christ. Il décrit ensuite les pressions qui sont endurées alors que chaque jour il fut persécuté, mais pas complètement abandonné. Il fut abattu, mais pas tué. L'apôtre Paul nous montre ainsi le but divin de Dieu lorsqu'il permet ses pressions contre son âme. C'était afin que la vie de Jésus puisse être manifestée et qu'elle puisse paraître dans ce vase de terre. Nous avons chacun d'entre nous Christ en nous. Nous nous abreuvons de cette présence et nous puisons en elle la vie. Mais nous en sommes seuls les bénéficiaires, à moins que cette vie ne soit libérée, extériorisée, pour que d'autres puissent en être nourris. Ou bien cette vie est enfermée à l'intérieur de nous, ou bien elle est répandue autour de nous. Dieu libère sa vie en nous par le moyen de notre humilité ou notre brisement. Les hommes et les femmes non brisés sont peu utiles à Dieu, car quoique ils portent ce trésor en eux, ils ne portent pas de fruits. Le fruit que l'on produit résulte de notre brisement, car lorsque nous sommes brisés et humiliés, la gloire de Dieu en nous se répand à travers les craquelures de nos vases. Voyons ce que dit l'apôtre Pierre dans la première épître de Pierre, chapitre 4, versets 12 à 14. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme il vous arrivait quelque chose d'étrange. Bien au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances de Christ. Vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. De leur part, il est blasphémé, mais quant à vous, glorifié. Alléluia. Quand l'Esprit de gloire repose-t-il? Quand cet Esprit de gloire repose-t-il sur nous? Lorsque nous sommes sous la persécution, ce repos de la gloire sur nous indique qu'elle fait sa demeure en nous. C'est une sorte de Gethsémané pour le peuple de Dieu. Gethsémané signifiant pressoir à huile. Une olive contient de l'huile précieuse et vitale pour l'homme, mais tant qu'elle n'est pas pressée, l'huile n'est pas répandue. Il n'y a pas de bénédiction pour les autres. L'huile que contient l'olive est donc une image du Saint-Esprit. Que voulons-nous dire par cela? Qu'il y a des centaines d'années, Jésus fut pressé et brisé, et le Saint-Esprit s'est répandu glorieusement sur l'Église. Quand l'Église est pressée et brisée, le Saint-Esprit se répand vers les nations et tous ces peuples, toutes ces races et toutes ces langues, ces peuples que l'apôtre Jean voyait, rassemblés, ils sont rassemblés devant l'agneau. La pression et la persécution sur le peuple de Dieu libère sur eux une plus grande gloire. Le monde entier verra l'Église dans sa gloire, et cela pendant un bref laps de temps précédant l'enlèvement. Pendant un instant final et victorieux, les habitants de la terre verront Christ en tant que roi sur l'Église. Dieu a promis à l'Église dans Joël, au chapitre 2, verset 25, qu'il lui restaurerait ses années perdues. Tout ce qui a été perdu pendant des années de somnolence, lui sera restitué. Puis, l'Église glorieuse sera enlevée en son époux. Mais en ce qui concerne ces nations, ces langues et ces peuples, qui les rassemblera? Comment cela s'accomplira-t-il? Les nations viendront à la lumière. Ésaïe 60 nous informe que l'Éternel se lèvera sur toi et sa gloire sera vue sur toi. Et les nations marcheront à la lumière et les rois à la splendeur de ton lever. Versets 2 et 3. Ce que l'Église a omis d'accomplir en plus de 2000 ans, elle l'accomplira à l'heure de sa gloire. Les peuples verront la vie de Dieu se manifester et ils se réfugieront auprès de sa lumière pour en bénéficier. Cela viendra quand les ténèbres seront particulièrement épaisses et les bouleversements rudes. Le brisement a donc pour but la libération de la gloire. C'est pour eux, pour ces gens assis dans les ténèbres et dans la douleur, que nous devons nous laisser briser. Mais y sommes-nous prêts? Les 300 de Gédéon sont une image pour nous. Juges chapitre 7 nous donne une illustration de cela avec le récit de Gédéon et ses 300 soldats. Souvenez-vous, on donna à chaque homme une cruche dans laquelle brûlait une torche. Au moment propice, au milieu de la nuit, les hommes ont dû briser leur cruche et la lumière qui se trouvait à l'intérieur se répandit dans la nuit. L'ennemi avait tellement peur que, dans le désordre qui s'ensuivit, ils s'entretuèrent tous. Les 300 poursuivirent ceux qui survécurent jusque dans un endroit appelé le Pré de la Danse, Abel Mehola. Le combat se termina dans un lieu de danse. Chers amis, nous serons comme ces 300 soldats, si nous suivons Jésus. Nous ferons peut-être l'expérience d'un type de Gethsémané. Je voudrais dire que pour Christ, comme pour chacun d'entre nous, cette expérience ne nous est pas imposée, mais elle est volontaire. Chaque véritable Gethsémané est vécu de notre plein gré. Nous devons le choisir pour le vivre. Comme Jésus, qui à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix, eh bien nous devons avoir une vision. Dans le livre des Juges, chapitre 7, chaque homme brisa sa propre cruche. Nous devons donc veiller à ce que seule la gloire de Dieu paraisse dans notre brisement. Lorsque nous aurons la révélation de cela, nous serons prêts à aller jusqu'au bout avec Christ. Cette incitation peut commencer par les larmes et par le brisement, mais elle se termine par des danses de joie. Ce sera la plus grande des manifestations de Dieu. Son résultat sera le plus grand réveil que le monde ait jamais connu. Dieu fera les plus grands miracles. Son peuple atteindra son plus haut niveau de sanctification. Il y aura la plus grande victoire sur le péché et nous ressentirons la plus grande joie. Tout cela sera le résultat direct de la grandeur de Dieu au milieu de son peuple. Je crois fermement que la gloire de Dieu se manifestera ainsi de plus en plus. Nous allons terminer cette étude importante. On ne peut, chers amis, résister à Dieu. Le prophète Ésaïe a dit « Sur toi se lèvera l'Éternel et sa gloire sera vue sur toi, puis les nations viendront vers toi. » Ésaïe chapitre 60. Cette gloire sera-t-elle visible ou simplement ressentie par les gens? Ai-je eu un avant-goût de cette gloire sur moi? Je le crois. J'ai soif d'en avoir encore plus. Cela était bien plus puissant que toute parole que j'aurais pu dire, bien plus efficace, transperçant immédiatement le plus profond de l'être intérieur. Je crois que le moment approche où Dieu se manifestera lui-même sur cette terre. Les gens le verront tel qu'il est. On ne lui résiste pas. D'un grand coup rapide et glorieux du Saint-Esprit, Dieu rassemblera de toute nation une multitude pour lui. Mais dans tout cela, nous devons simplement être des vases de terre, ses instruments soumis à lui. Dieu verra ces gens, chacun individuellement, et il les regardera au travers de nos yeux. Son amour pour ces hommes, profond et puissant comme un océan, se manifestera d'abord dans nos propres cœurs. Son onction qui les sauve, qui les guérit, qui les délivre, nous touchera en même temps qu'elle les touche. Nous serons en tout ce qu'il fait. Nous serons ses co-ouvriers, soumis et paisibles. Ce que je veux dire, c'est que nous serons là, nous serons témoins des faits, mais lui seul fera les œuvres. Oui, son repos est vraiment glorieux. Alléluia. Nous allons terminer par la prière. Prions. Dieu puissant et juste, encore aujourd'hui, par ta volonté paternelle, tu as daigné nous bénir et nous protéger. Puissions-nous apprécier l'étendue de tes miséricordes et ne point y demeurer insensibles. Aide-nous, Seigneur, à résister à toute influence qui tendrait à nous éloigner de toi. accorde-nous la grâce de pouvoir nous appuyer fermement sur la Sainte Parole, afin qu'elle soit notre guide et notre lumière à chaque instant de notre vie. Que dans ton livre divin, nous puissions chercher aussi la parole des prophètes afin de nous y attacher et de puiser en elle des espérances qui soutiennent notre courage, sachant que les saints hommes de Dieu, étant poussés par le Saint-Esprit, ont parlé et que les prophéties auront tout leur accomplissement, nous devons donc chercher dans les promesses qu'elles contiennent, nous devons chercher l'assurance de ta fidélité et de tes compassions envers nous. Un grand nombre de ces prophéties divines ont déjà été réalisées de manière à confondre le doute et l'incrédulité même, histoire des nations, celle en particulier du peuple que tu avais choisi et comblé de tes soins, ô Seigneur. La ruine et l'asservissement de ta ville sainte, l'anéantissement total des puissances orgueilleuses et dominatrices qui ont disparu de la surface du globe, balayées par le souffle de ta colère. Tu l'as déclaré dans ta sainte parole, que le ciel et la terre passeront, mais cette sainte parole subsistera toujours et qu'il n'y aura rien en elle qui ne s'accomplisse, et cela jusqu'à un seul iota et à un seul trait de lettre. Des êtres immortels que vous êtes, mes chers amis, sachez porter vos regards au-delà du court espace de cette vie et contemplez par la foi la réalisation des promesses et des déclarations du Seigneur. Ô Dieu, aide-nous par ton Saint-Esprit à nous confier en toi. Exauce nos humbles prières. Garde-nous par ta toute-puissante grâce et que ton saint nom soit béni dès maintenant et à toujours. Amen. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Et Dieu voulant, demain matin, pour la suite de cette série très importante. Au revoir, mes très, très chers amis.